La législation israélienne et comment elle fonctionne chaque fois qu'il y a un cas quelconque qui met un arabe en question. Les arabes sont plus protégés par la juridiction israélienne que les juifs eux-mêmes. Je ne sais pas si vous le savez. Je peux vous raconter des anecdotes que j'ai vécues ces jours-ci, mais enfin, puisque c'est sur cassette, c'est pas la peine. Et, c'est ça? Non, si vous voulez, bon, arrêtez l'enregistrement, je vais vous raconter un dernier incident. Imaginez une colonne de voitures qui doit traverser une région où il y a des villages arabes, et ces jours-ci, qui vont en colonne à cause des jets de pierre. Bon, il y a un barrage de pierre, et alors une centaine d'Arabes se groupent autour du barrage de pierre, et la lapidation commence. Alors, les Israéliens descendent de leur voiture et tirent en l'air. La police arrive et prend le nom et la carte d'identité, le numéro des voitures des Israéliens. Pendant ce temps-là, les Arabes sont évanouis dans la nature. Et alors, les Israéliens en question vont passer en jugement, et vont probablement être acquittés, mais suspectés d'avoir tiré en l'air sans raison, alors qu'il y avait une lapidation en cours. Voilà un exemple. Ça veut dire que la juridiction israélienne est sourcilleuse. Et parfois, vous en avez le sentiment de façon exagérée. C'est clair qu'il y a une espèce de légalisme de la loi pour protéger l'étranger qui dépasse ce que le citoyen juif israélien peut en attendre. Il faut le savoir. Bon, maintenant, ceci dit, il faut s'identifier. On est en guerre contre une autre nation qui occupe notre pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du problème. Bon, et je crois que les hommes politiques et les journalistes le savent, mais il y a un problème de la mise en interpellation d'Israël dès l'origine, dès le temps d'Abraham jusqu'à la fin des temps, au temps du Messie, et qui veut que par définition et de façon hypertrophiée, quoi qu'il se passe, les Juifs ont tort. Mais de notre temps, c'est notre fierté, les Juifs, c'est Israël. C'est clair. Donc, alors je referme la parenthèse parce que nous avons encore des références à avoir à enchaîner sur le top. Et vous voyez donc cette référence au temps de Joseph. Cette terre, c'est la terre des Hébreux, et tout le monde le sait. De la même manière que Israël, c'est le pays du peuple juif, et tout le monde le sait. Vous vous rappelez des études d'hier. Ce qu'on nous reprochait, c'est pas de rentrer chez nous, c'est d'oser rentrer chez nous. Référez-vous à l'étude d'hier en détail. Et Rachid l'avait prévu, et c'est ce qu'on étudie dans nos sources. Il fallait s'attendre à cela. Donc, alors nous allons voir deux références maintenant au début du livre de l'Exode. Je cherche les versets très rapidement et je vous les donne. Quelqu'un va peut-être aller me chercher la concordance, mais je ne voudrais pas perdre du temps. Je n'ai pas eu le temps de préparer la référence. Ça se trouve, deux fois, je vous donnerai une de ces références à 1 minute. Pourtant, il me semblait les avoir marquées. Bon, je veux dire de quoi il s'agit. Lorsque Moïse est chargé de cette mission de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, alors Dieu se révèle à lui simultanément sous la dénomination Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, lorsqu'il s'identifie par rapport aux Hébreux, va dire aux Hébreux le Dieu de vos ancêtres, Abraham, Isaac et de Jacob. Mais lorsqu'il s'agit de parler au Pharaon, voici une de ses références, c'est le verset 3 du chapitre 5. Vous allez prendre. On va prendre depuis le début, depuis le verset 1 du chapitre 5, c'est très clair. vers Havre, va où Moshe va Aaron, va Yomro El Paro, et ensuite Moïse et Aaron sont venus et ont dit au Pharaon, Ko Amar Hashem Eloke Israël. Suivez bien. Voici ce que dit Hashem, Dieu d'Israël. Shalach et Ami, renvoie mon peuple, Yahoguli Bamidbar, et qu'il me fête dans le désert. Va Yomer Paro, et Dieu dit, et Pharaon dit, verset 2, Mi Hashem, Asher Eshmar Bekolo, qui est ce Hashem que j'écouterai sa voix? Les Shalach et Israël, pour renvoyer Israël, laisser partir Israël. Lo yedati et Hashem, je ne connais pas Hashem, Vegam et Israël ou Hashaleach, et je ne renverrai pas Israël. Suivez bien, verset 3, Vayomru, et ils dirent, Elokea Ivrim Nikra Alenu. Le Dieu des Hébreux s'est révélé à nous. Alors là, le pharaon comprend. C'est deux fois dans ce contexte, mais il suffirait d'ailleurs de cette référence. Alors nous avons à l'envi, si j'ose dire, une indication du récit biblique dès l'origine qu'il va de soi que l'identité de ce peuple, c'est l'identité hébraïque, que sa terre, c'est la terre des Hébreux. Voilà la première partie des références que je voulais étudier avec vous. Et donc, dès demain, nous prendrons avec ce texte la distinction entre l'identité hébraïque et l'identité araméenne. Ce que nous allons suivre dans le temps que nous aurons, c'est l'effort de Abraham pour devenir Abraham, pour se débarrasser à travers trois générations de l'identité araméenne. C'est pas simple. Et jusqu'à devenir l'Hébreu qui reçoit le nom d'Israël, c'est Jacob recevant le nom d'Israël. Et tout ce récit de sélection d'identité dans l'histoire des engendrements, dans cette famille particulière qui est la famille des patriarches. Je crois qu'indépendamment de l'intérêt de cette étude pour elle-même, de comprendre qu'il y a deux niveaux d'identité, l'araméen jusqu'à Jacob, épuré complètement de son identité araméenne, de provenance de l'universel humain échoué, redevenant hébreu, disponible pour l'universel humain de l'avenir, et c'est appelé par le Midrash, Mashiach, être hébreu. Est-ce que c'est clair? Et indépendamment de cet intérêt, même c'est l'intérêt pour notre identification contemporaine. Nous vivons à l'échelle sociologique cet effort d'émergence de l'identité hébraïque authentique du dedans de l'écorce araméenne. Et ça éclate dans toutes les dimensions. Est-ce que c'est clair jusque... Alors c'est ce que nous commencerons donc demain. Alors je voulais vous entretenir de... Vous pouvez arrêter maintenant, c'est enregistré. Enfin, ça fait un certain nombre de séminaires que... je m'aperçois que les efforts que nous faisons sont un peu disproportionnés au nombre des participants. Enfin, les anciens se souviennent que les années précédentes, il y avait beaucoup plus de participants. Alors, on a essayé de réfléchir depuis deux ou trois fois de mes voyages, d'où cela vient. Possible qu'il y ait tout un faisceau de raisons. Mais je continue à avoir l'impression sur deux points que c'est une question d'horaire. L'essentiel du séminaire, c'est finalement les cours du matin. Bon, je sais bien que c'est une décision qu'on avait prise d'enregistrer sur cassette pour que ça puisse servir à d'autres, mais l'expérience montre que ça n'a rien à voir. Mais étudier sur un livre et écouter une cassette, ça n'a rien à voir. Et d'autre part, je m'aperçois, mais c'est récent comme phénomène, que finalement, il y a moins de monde, mais enfin, disons, suffisamment à la conférence inaugurale que je fais. Et ensuite, les autres communications, c'est très confidentiel, c'est très restreint, ça ne justifie pas. J'ai l'intention, j'ai une réunion dans les jours qui viennent, j'ai l'intention de poser la question de la manière suivante. Est-ce qu'il ne faut pas, en tout cas, je dois vous annoncer que le QH tout entier est en réorganisation. Nous sommes en train de penser une réorganisation radicale de tout le programme du QH qui dure déjà depuis 35 ans, qui finalement est arrivé à un essoufflement concurrentiel. Je veux dire, il y a maintenant des projets qui ont certainement procédé de l'inspiration du QEJ, mais qui ont un budget que la maison n'a pas et qui, par conséquent, surtout dans les instituts d'études juives, dans les universités, et donc ils sont en train de penser une réorganisation complète pour que cet instrument serve de façon plus efficace à ce à quoi il doit servir. Et probablement, ça commencera à fonctionner sous la nouvelle manière l'année prochaine, déjà. Mais je serai averti à temps par les programmes. Je me demande si pour le séminaire du troisième trimestre, est-ce un objet que je revienne encore À moins d'aménager la formule. Ce que je vais proposer, je vais vous demander votre avis, c'est de supprimer les cours du matin et les cours, et les conférences du soir. Et de... de remplacer cela par des cours qui auraient lieu de 6 à 8. Et en fermant la porte de la mezzanine à 6 heures, et le cours aurait lieu de 6 à 8. Et, c'est ça? Oui, pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? Alors, c'est ce que je vais vous demander. À quelle heure ce serait possible?
7 à 8 à 10.
Non, écoutez, je veux dire, si on décide que les cours ont lieu de 8 à 10, on ne pourra pas faire des cours, ce sera des meetings de 8 à 10. Hein? 7 à 9. Oui. Alors, on ferait peut-être, nous allons en discuter, des cours, 5 cours dans la semaine, de 7 à 9, Vedaï. Le soir. Parce que finalement, je m'aperçois que c'est jamais le même public qui est à la conférence et au cours du matin. Et donc, ça, par exemple, ce matin, tout ce que j'ai pris une heure et demie pour vous dire ce que je me préparais à dire en un quart d'heure. Et parce qu'il a fallu que je revienne sur des recodages, des analyses qu'on a déjà eues lundi soir ou hier matin. Alors je m'arrangerai pour que l'étude de texte se referme chaque jour sur un sujet fermé et qu'on ait successivement 4 ou 5 approches du sujet par étude de texte de 7 à 9. Et de supprimer les conférences parce que j'en vois plus l'objet.
Et pour le recrutement des jeunes, comment les gens viendront?
Il y a un problème de publicité. Si on ne
Écoutez, je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a 15 000 programmes qui paraissent chaque trimestre. Okay. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Comment? Même bien entendu. Non, mais... ils ont classe pendant que le séminaire fonctionne. Non, mais en tout cas, ça c'est une chose. Deuxièmement... C'est ça? Pourquoi le matin on a 4 heures? Non. Le matin on a 1 heure et demie, c'est ça. Le matin on a de 11h30 à 1h, ça fait combien ça? À 10h30, c'est ça. Bon, disons de 7h à 9h30, ça c'est pas un problème. Et alors ce que je vais demander c'est de réfléchir pour demain, vous me direz à quel sujet. Vous semblerez le plus adapté à cette nouvelle formule. Peut-être qu'on sera obligé de faire la suite de ce qu'on a fait maintenant. D'ailleurs, c'est possible. Alors, en tout cas, vous me le direz de même, je pense que la formule actuelle n'a vraiment pas d'objet. C'est une dépense d'énergie et de budget, d'ailleurs, disproportionnée. J'ai vu hier soir, c'est là que ça cristallisait mon opinion. Est-ce que ça justifie vraiment? Bon, ça c'est un problème d'intendance, en fait. Oui, c'est vrai.
Mais pourquoi on ne revient pas au temps ancien d'il y a 20 ans où vous faisiez vous-même des cours le matin et le soir?
Parce que le temps a passé.